podcast, la première. Semences de curieux. Jacques Olivier.
Bonjour. Nous avons vu dans l'émission précédente avec Gérard Borvon, que nous allons retrouver aujourd'hui, combien l'ambre, cette résine fossile venue de la Baltique, fascinait les Grecs dès le milieu du deuxième millénaire avant notre ère. Il lui avait donné le nom d'électron. On peut suivre la trace de cette ambre à travers l'Antiquité et le Moyen-Âge en regardant surtout du côté des pratiques médicales, voire magiques. Mais il faudra attendre la Renaissance et en particulier la seconde moitié du XVIe siècle pour voir apparaître le mot « électrique » sous la plume de l'anglais William Gilbert, par ailleurs médecin d'Élisabeth, reine d'Angleterre, lorsqu'il compare les propriétés permanentes de l'aimant et celles transitoires après frottement de l'ambre, et puis ensuite de bien d'autres matériaux comme le verre ou le soufre. Au cours du XVIIe siècle, cette électricité sera surtout regardée comme une source d'expériences spectaculaires, destinée à surprendre, sinon effrayer, dans les cabinets de curiosité ou chez les batteleurs de foire. Mais des savants vont s'y intéresser de manière, dirons-nous, plus théorique. Stephen Gray, un Anglais encore, étudie de plus près ce que l'on avait constaté déjà, à savoir que l'électricité peut exercer une force tantôt attractive et tantôt répulsive, cette dernière caractéristique étant peut-être la plus spectaculaire. De plus, cette vertu électrique peut se transmettre à distance, sans contact, et il faut attendre les débuts du XVIIIe siècle pour voir le français Dufay, injustement oublié aujourd'hui, identifier deux électricités qu'il nommera selon le matériau qui les produit, vitrée ou résineuse. Plus tard, c'est Benjamin Franklin qui verra quant à lui un fluide électrique unique, mais qui en somme se déplace en deux sens, il dira selon les cas, positif ou négatif. C'est lui aussi qui distinguera les matériaux conducteurs et isolants. Et puis, au début du XVIIIe siècle toujours, et par hasard, comme souvent, va venir ce qui constitue le premier condensateur électrique qui fera peur d'abord, puis sera domestiqué ensuite et fournira la possibilité de nouvelles expériences, j'ai nommé la bouteille de Leyde. Gérard Borvon. Quand vous parliez de choc électrique, on va en avoir un avec quelque chose qui s'appelle la bouteille de Leyde. Hein.
Oui, ça c'est
ça,
un
c'est,
des...
Mais c'est, je dirais, ça, c'est au sens physique du mot. Hein, le,
ah oui, oui,
le
oui.
Choc.
Bah, ça c'est un des événements...
C'est même l'électrochoc.
Oui, c'est un des événements importants. En fait, l'électricité a progressé comme ça par de petites expériences qui semblaient au début assez anodines, puis tout d'un coup qui vont déboucher sur quelque chose de très important.
Oui, elle naît un peu par l'effet du hasard, au fond.
Ah, oui elle naît, ah oui, elle naît par l'effet du hasard. Bon, c'était une habitude dans les cabinets d'électricité de charger d'électricité des liquides, par exemple. Alors on a cherché même à voir si le vin qui avait été chargé d'électricité était meilleur que le vin qui n'avait pas été. Alors on pouvait en discuter à longueur de page sur tel Bordeaux chargé d'électricité positive ou négative. Vous voyez, bon, c'était encore un grand plaisir qu'on se faisait. Mais Dufay fixait des règles pour ça. Et il avait expliqué que si on voulait charger un liquide d'électricité, eh ben, fallait d'abord prendre un verre assez épais pour le récipient et puis poser le récipient sur un plateau de verre bien isolé de façon à ce que l'électricité reste dans le liquide et ne se répande pas dans la terre. Hein. Et donc, eh bien, l'expérience qui a été donc menée à Leyde, hein, c'était en 1746, eh bien, va à l'encontre de toutes ces règles. Donc, un certain nombre de collaborateurs de Muschenbroek, parce qu'il n'a pas été le premier à le faire, mais c'est lui qui est resté dans l'histoire comme étant à l'origine de cette expérience, ils veulent charger un liquide d'électricité, mais en tenant directement le verre à la main, un verre assez fin, hein, et donc directement tenir le verre à la main, ce qui n'était pas la règle, et à un moment donné, eh bien, estimant que la charge était peut-être suffisante, ils veulent sortir du liquide le conducteur qui y plongeait dedans pour le charger d'électricité. Et c'est au moment où ils saisissent ce conducteur qu'ils sont pris d'une secousse qui les terrasse littéralement. Quoi.
Et ils se oui, il a cru mourir, hein. Il
ah
l'a
oui,
dit,
oui,
hein. J'ai cru passer.
Voilà, l'expérience décrite ensuite, je vais vous décrire une expérience que je ne vous recommande pas de réaliser vous-même. J'ai cru que c'en était fait de moi. Et il écrit ça à tous ses correspondants des cours européennes. Alors évidemment, tout le monde retente à nouveau l'expérience, quoi. C'est l'expérience de la bouteille qu'on appellera la bouteille de Leyde. On ne l'attribuera pas à Muschenbroek parce que, bon, après, il y aura une controverse pour savoir si c'est vraiment lui tout seul. En réalité, c'est un petit groupe de manipulateurs qui l'ont trouvé. Donc cette expérience de la bouteille de Leyde, elle se répand dans toute l'Europe. Et effectivement, ce que tous les commentaires qui sont faits, c'est toujours la même chose. J'ai cru que j'allais trépasser, je ne la recommencerai jamais. C'est un choc électrique que, pour la première fois, reçoivent ces expérimentateurs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Eh bien, pour la première fois, ils ont découvert ce qu'on appellera aujourd'hui un condensateur. C'est-à-dire, ils se sont rendus compte que deux conducteurs, en ce qui concernait la bouteille de Leyde, les deux conducteurs, eh bien, c'était l'eau d'un côté et c'était la personne qui tenait le vase de l'autre, isolé par un isolant qui était le verre. Eh bien, si on charge l'un de ces conducteurs et qu'on relie ensuite les deux conducteurs qu'on a depuis appelés des armatures, eh bien, l'électricité va passer de façon très rapide d'une armature sur l'autre, d'un conducteur sur l'autre, se décharger en quelque sorte.
Oui, une vraie décharge électrique.
Une vraie décharge avec une grande violence. Et que finalement, ces bouteilles, eh bien, avec la surface de la main de la personne qui le tenait, avec la surface conductrice qui était celle de l'eau et la surface de l'isolant, c'était des condensateurs qui était chargé suffisamment pour pouvoir donner ce choc électrique que parfois on ressent aussi quand on manipulait, parce que c'est de moins en moins vrai, les vieux postes de télévision dans lesquels il y a encore des lampes, oui, ou encore le moteur quand le Delco nous donne des étincelles aux bougies. On connaît quelquefois ces chocs électriques qui sont parfois assez étonnants et assez violents. Ben là, voilà, c'était une découverte. Alors, pour un spectacle, c'était formidable, quoi.
Oui, et puis, bon, on a, comme d'habitude, essayé de s'en servir pour beaucoup d'autres choses. Et on s'est pris encore pour Dieu, un peu, là-dedans. Hein.
Oui,
notamment un certain abbé qui essayait de ressusciter pratiquement les paralytiques. Enfin,
exactement, oui, immédiatement. Mais ça, dans toutes les étapes de l'électricité, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on trouve quelque chose de neuf, on le voit rapatrié rapidement du côté de certains cabinets de médecine qui en font leur propre usage. Alors, bien souvent d'ailleurs à tort et à travers. Là, l'expérience de cette secousse avait donné l'idée effectivement de voir si on ne pourrait pas remettre en marche des paralytiques. Et effectivement, quand on essayait sur le muscle paralysé d'une personne la décharge électrique, eh bien, on voyait le membre se contracter parce que le muscle n'étant pas mort, il était soumis à la décharge et il se contractait. C'était l'idée que peut-être on pourrait remettre tout ça en marche. Il est même arrivé une ou deux fois que, alors c'était pas vraiment une paralysie, c'était sans doute quelque chose de temporaire, eh bien cette décharge électrique puisse remettre un peu d'ordre dans une articulation qui avait été un peu abîmée. Du coup, on voit dans les cabinets de médecine se développer, et c'est les médecins qui développent, qui sont sans doute les premiers à développer l'usage de la bouteille de Leyde. On voit d'ailleurs des choses absolument délirantes, une décharge électrique qui est faite d'un côté à l'autre de la tête pour restituer l'ouïe à des personnes qui sont sourdes, par exemple, dans des montages à bacadabran. Et puis, on fait des bouteilles de Leyde de plus en plus grosses, qui sont capables de donner des décharges de plus en plus importantes. Au lieu de mettre de l'eau froide, on met de l'eau chaude, et tout d'un coup, on obtient des phénomènes extraordinaires, et on manque littéralement d'électrocuter le patient qui est dans le cabinet. Donc on se dit, il faut commencer à être prudent, quoi.
Oui, par contre, il y a pas mal d'animaux qui y passent.
Hein. Ah oui. Alors là, ça devient vraiment le gros spectacle. On prend un moineau d'abord, et le moineau, une décharge électrique, il succombe. D'ailleurs, on réussit même parfois, quand on a bien dosé, à réussir à oxyre le noyau, mais une deuxième décharge électrique, hop, le voilà qui renaît. Donc apparemment, l'électricité pourrait à la fois tuer, mais en même temps faire renaître. Voilà, le grand mystère encore qui s'épaissit. Et puis, on va prendre un poulet, on va prendre une dinde, on va prendre un animal de plus en plus gros, on va associer entre elles des bouteilles de Leyde, les mettre, comme on dit, en batterie, et on va arriver cette fois-ci à des étincelles qui font penser à la foudre. Hein. Mmh. Alors, quand on a des étincelles qui font 10, 20 centimètres, qui sont capables de tuer un animal comme un chien ou une dinde, un gros animal, on se dit que là, on approche finalement d'un phénomène assez terrifiant.
Oui, mais non seulement on le pense, mais on va essayer de le vérifier aussi. Hein, on va se dire, mais après tout, ça ressemble vraiment à la foudre. Alors, est-ce qu'après tout, la foudre, ça ne serait pas cette fameuse électricité?
Exactement, c'est l'idée qui apparaît au fur et à mesure. Et le premier qui est à l'émettre, d'ailleurs, mais parce qu'il est sans complexe, lui. Le problème de Franklin, c'est justement ça. Comme il est isolé,
oui,
il arrive en autodidacte.
Il est dans le nouveau monde, lui.
Voilà, il n'est pas du tout encombré par les théories qui ont cours en Europe. Et il n'a pas peur de se faire regarder de travers par ses confrères académiciens européens, si bien que il émet ses propres hypothèses. Et en particulier l'hypothèse que, bien ma foi, le tonnerre, il se peut très bien qu'il soit de nature électrique. Il n'était pas le seul à l'avoir pensé, mais avoir la formulé de façon si claire, il est vraiment le premier. Et comme d'autre part, il s'était rendu compte, mais ça avait été vu par d'autres aussi, mais lui l'a bien mis en évidence, il s'était rendu compte du pouvoir des pointes, à savoir que, avec une pointe conductrice, une tige de fer pointue, si on l'approche d'un corps électrisé, le corps, il perd son électricité. Comme si la pointe avait arraché l'électricité qui était dans le corps. Et donc, il imagine, dans un texte qu'il envoie à un de ses correspondants anglais, que on pourrait peut-être utiliser le pouvoir des pointes pour dresser des pointes sur des établissements et extraire l'électricité des nuages, comme lui les extrayait des corps chargés. Il envoie ce texte à un des correspondants de l'Académie des sciences anglaises les académiciens s'esclaffent devant une telle naïveté et le texte n'est pas publié. Mais il se trouve que une personne qui avait l'habitude de diffuser dans le grand public des textes justement de nature scientifique, disons un vulgarisateur scientifique dont on n'a pas retenu le nom, reprend cette lettre et la diffuse dans le public. Et elle a un certain succès, cette hypothèse-là, plaît. Elle arrive en France et elle est traduite, et en particulier par un collaborateur de Buffon, et lequel se dit que les œuvres de Franklin méritent qu'on y regarde de plus près et que cette hypothèse du paratonnerre mérite d'être explorée. Les expériences de Franklin sont reprises, et en particulier sont reprises devant la cour royale, et elles ont un effet sur la noblesse française, un effet qui pousse à tenter l'expérience. Et elle est tentée en France, à Marly, en 1752. C'est en France que pour la première fois, un paratonnerre est dressé et que la foudre est captée. Donc l'hypothèse de Franklin était valide. On apprend quelque temps après que Franklin aurait lui-même obtenu le même résultat. Parfois, c'était un peu mis en doute, mais on apprend aussi dans ses communications qu'il aurait obtenu le même résultat en lançant un cerf-volant un jour d'orage.
Quand on apprend qu'à cette époque, quand on va y arriver des nuées orageuses, l'idée c'était de faire sonner les cloches des églises pour s'en prémunir.
Oui, effectivement, il y a même un très beau un texte très intéressant dans les registres de l'Académie des sciences en France qui explique un énorme orage. Alors bon, je suis breton, j'habite justement dans le Finistère et cet orage c'était sur le Finistère. Un orage qui éclate sur le Finistère et la foudre qui tombe sur les clochers. Et il se trouve que dans les clochers, l'habitude est à cette époque-là de sonner les cloches pour écarter l'orage, et qu'on a effectivement dans une des églises, eh bien, les personnes qui sont en train de sonner la foudre tombe sur le clocher, et les personnes qui sont en train de sonner les cloches sont électrocutées, ce qui fait une grosse émotion dans le pays, d'autant plus que là, il y a deux interprétations. L'une d'un savant local, qui fait d'ailleurs la communication à l'Académie des sciences, et qui dit, eh bien, on a sonné les cloches, en gros, on les a sonnées un peu trop tard, il aurait fallu les sonner les cloches avant que l'orage arrive, parce que si on les avait sonnées avant, ça aurait écarté l'éclair, tandis que là, ça l'a plutôt attiré, vous voyez, une pseudo-explication scientifique. Oui. Et puis vous avez la population qui dit, mais non, pas du tout, on a sonné les cloches le vendredi saint, ce jour-là était le vendredi saint, or le vendredi saint, il est interdit de sonner des cloches. Et donc, c'est cette double interprétation, c'était une punition du ciel. Mais bon, l'anecdote est intéressante parce que jusqu'à là même, une fois qu'on a découvert la propriété des flèches, qu'on a mis en place les paratonnerres, on a continué à sonner les cloches. La tradition s'est maintenue de sonner les cloches les jours d'orage. Et on a continué à voir, malgré des édits royaux qui interdisaient, on a continué à voir pendant un certain temps encore des sonneurs de cloches électrocutés.
Alors, on doit peut-être passer un peu rapidement sur certains chapitres.
Bon, oui,
on
l'a,
parce que
l'histoire est longue. Hein.
L'histoire est longue, et puis bon, il y a toujours. On peut renvoyer au livre aussi, bien sûr, pour, ouais, pour ouais. compléter, je dirais, le récit. Bon, laissons un peu de côté Galvani et Volta, mais tout de même en signalant, bien sûr, que la création de la pile, parce qu'on empile en fait hein, des métaux différents. C'était ça la pile de Volta, avec en plus quelque chose pour les séparer, mais qui ne devait en principe servir à rien, mais qui fait tout.
Oui. Mais la découverte de la pile, c'est quand même quelque chose de fondamental.
Parce qu'on va avoir du courant continu.
Oui, on parle de ce qu'on appelle aujourd'hui, qu'on appelait l'électrostatique, hein, quand on l'enseigne, d'électricité, quand elle est fixe, à l'électrodynamique, c'est-à-dire l'électricité sous forme de courant électrique. Et finalement, l'électricité qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'électricité qui passe dans les fils, qui est transmise. Donc, la deuxième naissance, en quelque sorte, si j'ai parlé de Gilbert, la deuxième naissance de l'électricité, eh bien, c'est en 1800 avec Volta. Alors, évidemment, il y a une histoire assez longue avant de Galvani, qui est le premier à avoir découvert.
Et de Madame Galvani, peut-être.
Et de Madame Galvani, qui a su voir à distance une expérience qui se réalisait dans le laboratoire de Galvani, où Galvani étudiait l'excitation des muscles et l'excitation à travers les nerfs. C'était une recherche, la recherche d'un biologiste. Il était biologiste et il essayait de voir qu'est-ce qui était le phénomène qui excitait les nerfs dans l'économie animale. Donc, il testait, par exemple, une action chimique, hein, en excitant le nerf par un produit chimique, ou par un contact, ou même par l'électricité, en reliant un scalpel, une pointe, à une machine électrique, et exciter le muscle par une machine électrique, et ça marchait très très bien. À condition d'avoir relié le scalpel à la machine électrique. Un jour, une expérience est réalisée. Un des chercheurs qui était là, quoi, un des collaborateurs de Galvani, était en train de préparer le muscle de grenouille et il approche son scalpel du nerf de la cuisse de grenouille et à peine il touche, il voit la cuisse qui se contracte. Il recommence et puis à un moment donné, il observe une autre contraction. Alors qu'il n'y a pas de produit chimique, que son scalpel n'est pas relié à une source d'électricité. Mais c'est justement Madame Galvani, qui était un peu à distance, qui se rend compte que dans le laboratoire, à côté, il y avait une personne là, qui était en train d'actionner une machine électrique et qu'il y avait des étincelles qui sortaient de cette machine et que c'est à chaque fois qu'il y avait une étincelle électrique qui sortait de la machine, eh bien que le muscle se contractait. Et il a l'idée que c'était le fluide électrique finalement qui était dans l'atmosphère, qui recueillit par la pointe, là, contractait ce muscle. Alors il commence une série d'expériences en essayant d'utiliser justement l'électricité des nuages, en attachant un muscle de grenouille à un paratonnerre. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce serait long. Pour finir un jour par observer cette contraction d'un muscle de grenouille, un jour où il n'y avait pas du tout de nuages dans le ciel et pas de phénomène atmosphérique qui rappelle du tonnerre. Ce jour-là, il observe une contraction en faisant toucher justement au nerf de la grenouille un circuit où la patte de la grenouille touchait le fer du balcon auquel elle était accrochée, alors que le crochet lui-même qui touchait l'autre côté du balcon était de cuivre. En fait, il avait là une série cuivre, un crochet, patte de grenouille, fer qui lui donnait ce résultat. Il ramène ça à son laboratoire et il réédite l'expérience. Et à ce moment-là, il se rend compte qu'on peut produire un phénomène électrique, la contraction du muscle de grenouille, sans qu'il y ait besoin ni d'une machine électrique, ni du tonnerre. Alors son interprétation à lui, c'est que l'électricité, en réalité, s'est produite dans le muscle de grenouille elle-même. C'est le muscle, c'est le corps vivant qui produit de l'électricité.
Oui, le nerf et l'électricité, c'est la même chose, quoi. Ou
voilà,
chose
exactement,
comme ça,
exactement. C'est à l'intérieur même du corps vivant que l'électricité se produit. Et quand on fait un circuit électrique qui rejoint l'extérieur du muscle au nerf, eh bien là, on a une espèce de bouteille de Lane, en quelque sorte. Et du coup, le courant électrique qui passe du nerf jusqu'à l'extérieur du muscle, elle-même va contracter le muscle. C'était l'expérience, l'interprétation de Galvani, qui est d'ailleurs reprise ensuite par Volta. Mais Volta est plutôt un physicien plutôt qu'un il est plutôt chimiste, physicien plutôt que biologiste.
Voilà, plutôt que le muscle, c'est le métal.
Voilà, exactement. Et lui, il a l'idée que ça doit être le métal, que ça doit être au contraire le couple fer-zinc qui est responsable de ça. Il a l'idée que, eh bien, à l'intérieur des métaux, il y a de l'électricité.
Oui,
un fluide électrique. Et que ce fluide électrique, eh bien, il peut passer d'un métal à l'autre. Il invente la notion de potentiel. Disons, les deux métaux n'ont pas le même pouvoir électrique. électrique, le même potentiel électrique. Et c'est son idée, c'est que de l'électricité passe d'un métal à un autre. Et pour lui, le muscle de grenouille, il a tout simplement, eh bien, comme propriété d'être conducteur. Hein, il est conducteur, il est humide, il est conducteur, c'est connu. Et quand il sert de conducteur, par hasard, eh ben justement, il se contracte parce qu'il a servi de conducteur. Alors, en remplaçant le muscle de grenouille par un disque de feutre, par exemple, imbibé d'eau, puis après, il imbibera d'acide, eh bien, il observe qu'il a le même résultat. Il n'a donc pas besoin de muscle de grenouille. Donc, l'électricité, pour lui, n'est pas d'origine animale, elle est d'origine métallique. Et donc l'idée, c'est d'empiler ainsi des disques. Hein, disques. Alors c'est pas du fer qu'il va utiliser parce qu'il obtient le meilleur résultat avec du zinc. Donc il va empiler un disque de zinc, une rondelle de feutre imbibée d'acide, puis un disque de cuivre, puis il remet un disque de zinc et il monte comme ça une colonne de 20 disques. Et quand il rejoint les deux, voilà, une pile. Il empile des disques. Et quand il rejoint les deux extrémités, lui-même, eh bien, il reçoit la secousse qu'on pouvait recevoir avec une bouteille de Leyde. Il avait donc inventé un nouveau générateur qu'il décrit comme une bouteille de Leyde d'ailleurs, mais avec un mérite, c'est celui de se recharger spontanément une fois qu'on a pris la décharge électrique. Et donc, comme c'est quelqu'un qui est en correspondance régulière avec l'Académie des sciences anglaises, eh bien, peu avant 1800, il rend compte de ses expériences aux académiciens anglais qui refont les expériences et qui se rendent compte, cette fois-ci, ils vont pas laisser passer l'aubaine qu'ils avaient laissé passer avec Franklin, qu'il faut exploiter ça très rapidement et voir tout ce qu'on peut en ressortir. Et donc, la pile électrique est découverte et le courant électrique, c'est quand même un des moments les plus importants de l'histoire de l'électricité. Et d'ailleurs, quelqu'un devant qui Volta avait fait ses expériences, qui était Bonaparte, eh bien, s'en rend bien compte. Et après avoir vu les expériences de Volta, eh bien, il décide de créer un prix Volta qui sera donné à la personne qui aura fait faire le même bond dans le domaine électrique qu'avait fait avant Volta, qu'avait fait par exemple Franklin. Donc il y aura un prix Volta qui aura été créé par Bonaparte à cette époque-là.
On va retrouver l'aimant en cours de route.
Oui, oui.
Ah, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une étonnante analogie à faire entre ce qui se passe comme phénomène électrique d'attraction, de répulsion, et ce qui se passe avec un aimant tout de même.
Oui, alors pratiquement, on va retrouver l'aimant une vingtaine d'années après que Coulomb était le premier à étudier les lois d'attraction et de répulsion à distance entre deux aimants. Hein, on sait que deux aimants se repoussent par leur pôle de même nom et s'attirent par les pôles de nom contraire, mais Coulomb était le premier dans les années 90, par là on va dire, de 85 à 90, à avoir étudié d'abord comment on pouvait faire des aimants de grosse portée en utilisant du fer, comment aimanter le fer par des moyens qui utilisaient l'aimantation naturelle, et ensuite étudier les lois mathématiques d'attraction et de répulsion, et de se rendre compte que c'était à peu près des lois qui ressemblaient à l'attraction dans le domaine de l'électricité ou de la gravitation. Donc ça, c'était dans les années 1790, par là. Et donc, on pensait avoir fait le tour de l'aimantation, on savait tout de l'aimant, jusqu'au moment où, eh bien, l'expérience, qui est l'expérience cruciale, qui nous montre que quand on met un petit aimant, eh bien, sous un fil tendu dans lequel passe l'électricité, eh bien, on a là tout d'un coup une déviation de l'aiguille aimantée. Alors là, c'est l'expérience d'Oersted, une expérience fabuleuse qui montre qu'il y a une influence du courant électrique sur un aimant.
Et Copenhague,
il faut encore rendre à César ce qui lui appartient. C'est une expérience, effectivement, qui nous vient de Copenhague et qui va là mettre encore tout le monde scientifique européen en effervescence, quoi. Parce que c'est une expérience qui est tellement facile à reproduire, hein. Il suffit d'avoir une aiguille aimantée et puis d'avoir une pile et un fil conducteur et on peut vérifier, effectivement, ce phénomène. Alors, ce sera repris en particulier en France et c'est là que ça va se développer assez vite. Ce sera repris par Ampère et par Arago, qui vont imaginer des montages, en particulier qui vont imaginer ce montage qu'on appelle un solénoïde, hein, c'est-à-dire au lieu d'avoir un fil tendu, eh bien on va en faire une bobine, on va bobiner un fil. Dans cette bobine, on peut même mettre un noyau de fer. Et là, on se rend compte qu'on a fabriqué que l'électricité non seulement peut influer sur un petit aimant qui est à distance, mais même que l'électricité peut produire des aimants. Et le solénoïde avec un noyau de fer dont je vous parle là, eh bien, c'est la découverte de l'électroaimant. C'est-à-dire là, l'électroaimant qui va être à la base des moteurs électriques après, qui va être à la base des électroaimants tout simplement, capables de soulever des charges, ou capables encore d'actionner, par exemple, le petit marteau qui servira à développer le télégraphe, qui est aussi une des découvertes qui découle immédiatement de cette expérience et de l'invention de l'électroaimant. C'est donc encore une étape très très importante.
Et on est là dans ce qu'on appelle l'électromagnétisme. La réunion est définitivement faite.
Cette fois-ci, oui, les deux disciplines qui avaient été séparées par Gilbert eh bien, se réunissent et on rentre dans le domaine de l'électromagnétisme. Que Ampère avait appelé électrodynamisme parce que pour lui, finalement, tout était de nature électrique. Il n'y avait pas un phénomène électrique d'un côté, magnétique de l'autre, parce que, disait-il, ce qui se passe dans les aimants, et c'était quand même une prémonition, est aussi de nature électrique. Dans les aimants, disait-il, ce sont des petits circuits électriques qui provoquent le phénomène magnétique.
Ils sont des espèces de solénoïdes naturels.
Voilà, naturels, qui sont dans l'aimant. Et la Terre elle-même, disait-il, eh bien, c'est un grand solénoïde. Il y a dans la Terre des courants électriques qui passent en boucle et qui sont responsables de l'alimentation du globe terrestre. Et là aussi, ma foi, il voyait assez juste. Donc lui, il aurait souhaité qu'on abandonne l'expression électromagnétisme, mais l'expression était trop solidement installée pour qu'elle soit abandonnée. D'ailleurs, moi, je pense qu'elle est vraiment très, très intéressante parce qu'elle rassemble deux branches qui étaient séparées et qui, aux yeux des gens, apparaissent quand même comme pouvoir être distinctes.
C'est Gérard Bourbon, longtemps professeur de physique, je vous le rappelle, qui nous raconte l'histoire de l'électricité. Il faut se tourner de nouveau vers l'Angleterre pour assister à la théorisation, au fond, de toutes ces questions. Et notamment, le paradoxe, c'est que je dirais que c'est un des plus grands expérimentateurs, peut-être, que la planète ait connu, qui va avancer les premières hypothèses d'explication de cette électricité, ou en tout cas d'en concevoir la manière dont elle exerce ses effets. Et je veux parler de Faraday, bien sûr.
Oui, oui, oui. C'est vrai. Là, on a avec Faraday quelqu'un qui est vraiment extraordinaire parce que il a fait progresser la science dans différents domaines, en particulier dans le domaine de la chimie, avec tout le vocabulaire de l'électrolyse, anion, cation, cathode, anode, et ensuite alors dans le domaine effectivement de l'électromagnétisme, parce que donc Faraday, pour lui, autour d'un fil dans lequel passe un courant électrique, eh bien, il imagine ce qu'on appellera avec lui un champ électrique. Il imagine des lignes de champ qu'on pourrait représenter comme effectivement, s'il parle de lignes de champ, c'est qu'il imagine un champ de blé, en quelque sorte, vous voyez, avec quelque chose d'invisible, mais qui partirait là du conducteur et qui se déploierait autour du fil. Et le phénomène qu'il découvre et qu'il a recherché, c'est d'une part, on s'était rendu compte que l'électricité pouvait produire de l'aimantation, mais son idée à lui, c'est est-ce qu'un aimant pourrait pas produire de l'électricité? Est-ce qu'en mettant un circuit électrique à côté d'un électroaimant, eh bien, on pourrait pas voir dans ce circuit électrique apparaître un courant électrique? Donc l'idée, eh bien, c'est de mettre effectivement une bobine, un solénoïde, et d'enrouler d'ailleurs sur le même anneau un autre circuit à côté pour voir quand on fait passer le courant électrique dans la première bobine si on ne voit pas un courant électrique qui passe dans la deuxième. Et dans un premier temps, il est déçu. Il est déçu parce qu'il ne voit rien du tout. Enfin, pas tout à fait rien quand même, parce qu'il se rend compte d'une petite déviation quand il établit le courant, et puis d'une des déviations aussi quand il supprime le courant. En y regardant de plus près, en ayant une première bobine qu'on appellera bobine primaire avec un grand nombre de spires sur un noyau de fer, mais il se rend compte que cette fois-là, quand on supprime ou qu'on établit le courant, la déviation que l'on obtient dans l'appareil qu'il a mis au point pour mesurer le courant électrique, qui est une petite aiguille qu'on appelle un galvanomètre qui mesure le courant, et bien il se rend compte qu'il y a des déviations importantes. Et donc quand même, un phénomène lui apparaît à la rupture, à la fermeture, c'est quand le courant varie dans la bobine primaire, eh bien qu'on aura un courant qui sera créé dans la bobine secondaire. Donc tout le problème après, ce sera de faire varier le courant dans la bobine primaire. Et faire varier le courant dans la bobine primaire, ben, il faut trouver des façons de le faire. Ça peut être, par exemple, en plaçant un aimant devant la bobine primaire, en faisant tourner cet aimant. Et ben, comme l'aimant présentera alternativement sa face sud et sa face nord, on aura forcément une variation du courant dans la bobine primaire. Et on verra dans la bobine secondaire s'établir un courant qui, cette fois-ci, alternance après alternance, eh bien, suivra l'alternance du courant primaire. Et il découvre ainsi le phénomène d'induction électrique. Donc la possibilité, à partir d'un phénomène magnétique, de créer de l'électricité. Et du coup, on a quelque chose qui va se développer, justement, dans les génératrices, comme celles qui auront été construites par Gramme. Mmh. La génératrice de Gramme, en quelque sorte, c'est ça. Faire varier un courant dans des bobines, et puis recueillir un courant dans des bobines secondaires.
Il y a aussi chez Faraday l'idée d'expliquer comment les choses se passent. Hein, quand il parle donc de... Enfin, lui, il ne parlait pas vraiment de champ, il parlait de ligne de force. Mais,
oui, il parlait de ligne de force.
Bon, ce sera Maxwell qui va parler de champ, et on va faire la synthèse entre les deux en parlant aujourd'hui de ligne de champ.
Oui, exactement. On peut dire l'expression champ, il l'a employé aussi, mais il parlait de ligne de force qui constituait un champ. Donc après, on a parlé ça de... Effectivement, on a utilisé la terminologie de ligne de champ, oui.
Et celui qui va vraiment théoriser ça c'est extraordinaire aussi, enfin je veux dire c'est une des grandes performances de la science, c'est Maxwell, hein,
avec EC. Oui, c'est Maxwell qui reprend d'ailleurs, qui dit lui-même, hein, j'ai pas voulu entamer les travaux sur l'électricité avant d'avoir lu tout ce que Faraday avait pu écrire là-dessus. Maxwell est impressionné par la vision de Faraday qui voit dans l'espace effectivement des lignes de champ. Et il comprend que dans cet espace, eh bien, se passaient des phénomènes. Alors, Maxwell est quelqu'un en plus de ça qui travaille dans un domaine très pratique. Et là, il a travaillé en particulier sur les unités électriques. Et c'est quelque chose d'important aussi à cette époque-là, parce qu'à partir du moment où on commence à avoir une industrie électrique, on a besoin de pouvoir échanger, on a besoin de pouvoir mesurer, on a besoin de pouvoir définir des unités électriques. Et en travaillant sur les unités électriques, Maxwell s'est rendu compte d'un problème. Suivant qu'on établit les unités à travers la conception électrostatique de l'électricité ou la conception électrodynamique, on arrive à des résultats qui sont différents.
Avec ou sans courant électrique.
Et donc, en analysant ces deux phénomènes, il réfléchit d'abord sur la corrélation qui est entre les deux types d'unités. Et cette corrélation l'amène à voir que les deux systèmes d'unités sont liés par un élément qu'on peut décrire comme étant une vitesse. Et quand on regarde la valeur de cette vitesse, eh bien, il se rend compte que cet élément qui joint les deux unités, c'est la vitesse de la lumière qui a été déterminée quelque temps auparavant. Donc, il se rend compte que la lumière doit être liée quand même d'une certaine façon au phénomène électrique. Et qu'il peut exister, sans doute, imagine-t-il, des ondes qu'il appellera ondes électromagnétiques qui se déplacent dans le champ qui a été fixé par Faraday, qui se déplacent donc dans le champ électromagnétique. Il essaie d'établir, à partir d'un certain nombre d'équations, la propagation possible de ce champ. Et il trouve effectivement, il prouve par les équations qu'il arrive sur le même résultat que celui qu'il avait subodoré, à savoir si une onde électromagnétique peut se déplacer dans l'espace, elle devra se déplacer à la vitesse de la lumière. Et il arrive à la conclusion que la lumière elle-même est peut-être une onde électromagnétique. Alors évidemment, c'est un résultat qui est excessivement important. D'abord, le fait qu'on imagine la possibilité, il ne les a pas encore mises en évidence, mais il imagine la possibilité d'une onde électromagnétique et d'une onde électromagnétique qui se déplacerait à la vitesse de la lumière. Donc la suite, évidemment, de la recherche, eh bien, ce sera essayer de mettre en évidence cette onde électromagnétique, et ce sera ce qui sera fait par les expériences en particulier de Hertz qui montreront qu'effectivement il peut se déplacer dans l'espace une onde électromagnétique. Donc le passage par Maxwell est un passage excessivement important aussi.
Unificateur.
Pour tout ce qui est domaine, unificateur d'abord, et qui lance une nouvelle branche qui est l'étude des ondes électromagnétiques, qui est quand même quelque chose à notre époque d'assez important.
La preuve c'est qu'on est là, oui.
qu'on a à distance ici.
On va passer un peu rapidement sur les problèmes des terres, hein, parce que que ces champs puissent fonctionner, il faut qu'il y ait une sorte de substrat matériel un peu bizarroïde, hein, à la fois rigide et souple. Ça va remettre en question la théorie. Mais alors, je dirais qu'on va aller de bouleversement en bouleversement. Hein, on va identifier, c'est Thomson encore en Angleterre qui va identifier la particule ou le corpuscule d'électricité, hein, qu'on appellera plus tard le fameux électron. Nous voilà donc avec une explication où c'est les électrons qui mènent le jeu, si je puis dire. Mais le problème aussi, c'est que pour expliquer la manière dont fonctionnent ces électrons, on va arriver à quelque chose d'abstrait qui s'appelle la physique quantique, au point qu'on ne sait plus très bien ce que c'est l'électron.
C'est vrai que la découverte de l'électron par Thomson est aussi un moment important parce que ça répond à une question qui s'était posée dans le rayonnement qu'on appelle cathodique. Alors là aussi, il faudrait
rentrer
dans le détail, mais voilà, on le connaît encore parce que les vieux postes de télévision avaient leurs écrans cathodiques, et c'était ce rayonnement qui était utilisé. Alors dans ce rayonnement cathodique, il y avait, on se demandait qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est l'électricité, est-ce que c'est une forme de lumière, donc il y avait tout un débat jusqu'au moment où Thomson montre qu'effectivement c'est un rayonnement, un faisceau d'électricité, et que l'électricité dans ces faisceaux se présente sous forme de grains, en quelque sorte, hein, qu'on appellera par la suite électrons. Lui-même n'appréciait pas beaucoup ce nom, mais bon, c'est le nom qui restera. Et partant de là, une explication de ce qu'est l'atome. Thomson, à partir du moment où il découvre ces grains d'électrons qui sont excessivement légers, hein, pratiquement 2000 fois plus léger que le plus léger des atomes qui est l'hydrogène, il a une vision de la structure de l'atome. Il imagine maintenant les atomes comme on a imaginé, c'est un anglais, hein, sous forme d'un pudding. C'est-à-dire, l'atome serait une boule dans laquelle vous auriez des grains de raisin qui seraient les électrons, qui seraient disséminés. Cette boule serait une boule de matière positive, et les électrons, petits grains d'électricité négative, ça s'agiterait dans ce pudding. C'était sa vision de l'atome, jusqu'au moment où Rutherford, eh bien, se rend compte que c'est pas tout à fait comme ça, que l'atome n'est pas quelque chose de plein, mais quelque chose qui présente un noyau, que la matière positive est concentrée dans ce noyau, et que les électrons, la première image qu'il en donne, tournent tout autour. Mais la science, la physique est assez avancée à cette époque-là pour savoir que si des électrons tournent autour d'un noyau positif, eh bien,
ils
émettent forcément une onde électromagnétique, c'est-à-dire que rapidement l'atome perd de son énergie et que les électrons, eh bien, perdant de cette énergie, vont se fracasser en une fraction, je dirais pas de seconde, même de millisecondes sur le noyau. Donc le système ne marche pas. Alors Bohr imagine, eh bien, un système où on aurait les électrons sur des couches bien séparées, où la transition ne pourrait pas se faire, ce serait plus véritablement des orbites dans le système orbital. Et le système, au fur et à mesure, évolue. L'atome de Bohr lui-même est dépassé pour arriver effectivement à la physique quantique, à la quantique où on ne sait plus très bien comment est la matière. Ce qu'on connaît de la matière, eh bien, c'est le résultat des expériences qu'on peut mener dessus et qu'on peut chiffrer. C'est-à-dire la physique quantique qui se résume par ce qu'on appelle des matrices dans lesquelles un électron, par exemple, est décrit par un tableau de chiffres. Ça, on sait décrire l'électron par un tableau de chiffres. Et qu'est-il réellement? Est-il grain? Est-il onde? Parce qu'entre-temps, il y a eu De Broglie aussi qui a contesté que les électrons soient des petites particules. Il y avait aussi la théorie des photons où Einstein avait montré que l'onde électromagnétique, la lumière, pouvait aussi s'exprimer sous forme de grain. On était donc dans une dualité, là. Onde-particule, eh bien, pour l'électron, c'était la même chose. On s'interrogeait, est-ce que c'est une onde, est-ce que c'est une particule, est-ce que c'est les deux, oui. Et finalement, ben, on est dans la physique contemporaine, la quantique, où on parle pour toutes les particules, on évite même le terme de particule, on va parler de quantons, hein, des quantons qui sont définis par un certain nombre de chiffres, de caractéristiques, et qui ont des propriétés qu'on découvre au fur et à mesure et qui sont de plus en plus intrigantes.
Mais ça, c'est si on veut vraiment aller jusqu'au bout des choses, hein, d'une certaine manière. Parce que si on garde l'idée de l'électron, petite boule qui se promène dans un conducteur, on peut faire énormément de choses, hein, avec ça.
Ah oui, bien sûr.
Je veux dire que ça suffit d'une certaine manière pour faire comprendre, par exemple, à des étudiants comment les choses se passent en matière d'électricité.
C'est vrai, le modèle est efficace. Les modèles qui ont été construits dans les siècles ou dans les dizaines d'années précédentes, eh bien, sont des modèles qui sont efficaces parce qu'ils sont le résultat justement d'expériences concrètes qui donnaient des résultats importants. Donc, quand on continue à utiliser ces modèles, quand on continue à utiliser l'électron comme modèle dans l'électronique, quand on essaie de réfléchir comment l'électron dans un système électronique passe d'un atome sur un autre, eh bien, c'est très très efficace. Quand on essaye de construire des moteurs électriques de plus en plus performants, quand on réfléchit en termes de champs électromagnétiques, c'est très très efficace. Donc ce sont des modèles dont l'efficacité n'est pas contestée. Alors on continue à les utiliser, et suivant le type d'enseignement qu'on fait, on les utilise fortement. Mais il est important de voir que ce sont des modèles, mmh. et que la science n'est pas figée dans ces modèles-là, et qu'il y a d'autres modèles qui peuvent aussi être développés, et qu'il ne faut pas se contenter de ces modèles, sinon s'arrêter à ces modèles, ce serait bloquer toute recherche et là, ce serait quand même dangereux.
Oui, parce que quand on réfléchit à un transistor à un électron, par exemple, ça devient plus compliqué.
Exactement.
Bizarrement, dirais-je.
Oui. Pratiquement, on en est maintenant à imaginer des signaux au niveau de l'atome, avec l'usage, y compris pour la transmission de messages et phénomènes quantiques.
Donc, au fond, il faut essayer de s'arrêter au niveau de concept, dirais-je, dont on a l'utilité d'une certaine manière.
Ça dépend, qui les utilise, Moi, en tant qu'enseignant, j'ai jamais enseigné la physique quantique et j'avoue que j'aurais de grosses difficultés à l'enseigner. Par contre, les modèles plus anciens du 19e siècle, on les utilise avec beaucoup de bonheur. Mais il faut expliquer que ce sont des modèles qui sont limités à l'usage qu'on en fait aussi.
Voilà, il y a une sorte de Newton pour l'électricité aussi, dirais-je.
Exactement.
Mais bon, ceci dit, et on va terminer par ça, c'est d'une certaine manière, moins on sait ce qu'est cette électricité, au fond, plus on se rend compte qu'on en a besoin.
Ah, oui, c'est vrai.
C'est la grosse contradiction, presque, le gros paradoxe, en tout cas.
Enfin, on en a besoin, elle est pratique. Au 19e siècle, quand on imagine, il y a eu une exposition qui a été en 1881.
Et que vous détaillez dans le livre, encore une fois.
Qui est vraiment le phare, parce que c'est à partir de ce moment-là,
c'est le cas de le dire d'ailleurs, il y en avait un grand au milieu de l'exposition.
Il y en avait un grand au milieu, et qu'on a commencé à imaginer l'usage qu'on pourrait faire de l'électricité. C'était surtout l'idée qu'on allait pouvoir transporter l'énergie à distance, la produire quelque part, et puis pouvoir l'utiliser ailleurs. Alors le modèle qui était le modèle imaginé à l'époque, c'était surtout d'utiliser l'eau, par exemple, qu'on avait dans les montagnes. En France en particulier, on imagine les lacs de montagne. Donc l'idée de pouvoir faire des barrages, de produire de l'électricité avec des chutes issues de ces barrages et de transporter cette électricité à plusieurs centaines de kilomètres, c'était quelque chose qui excitait l'imagination des ingénieurs de l'époque. Ou encore produire l'électricité à partir des vents, les moulins, les moulins tout simplement dans les rivières, qui étaient capables de produire aussi leur électricité. C'était quelque chose qui ouvrait des perspectives extraordinaires.
Et on voit aussi que maintenant,
et on voit en réalité qu'elle s'est pas développée à partir des énergies qu'on appelle renouvelables, qui étaient donc les énergies qui étaient dont on imaginait qu'elles allaient essentiellement être utilisées à cette époque pour s'éviter même d'utiliser le charbon qui coûtait quand même assez cher et qu'il fallait transporter, lui. Et on voit que le boom de l'énergie à partir de 1900, ça a été le pétrole, ça a été l'utilisation du pétrole et on en voit maintenant les deux problèmes, à savoir la raréfaction des ressources et en même temps le problème de l'effet de serre qui nous amène à réfléchir à un autre mode de production de l'électricité à partir de l'économiser d'abord parce qu'elle est bien utile, mais quand on l'utilise à bon escient, ça va, mais quand on la gaspille, par exemple, pour le chauffage électrique, ça va beaucoup moins. Donc l'utiliser à bon escient et ensuite trouver des sources de production d'électricité qui soient, disons, non polluantes et qui permettent malgré tout de développer un peu partout les bienfaits de l'éclairage, par exemple, ou les moyens d'installer en dispositif les centres de santé un peu partout sur la planète ou les centres d'éducation. L'électricité, on ne va pas s'en passer, c'est évident. Et on en a besoin, elle est particulièrement utile. Maintenant, il faut apprendre à la maîtriser.
Gérard Borvon, qui nous a raconté cette histoire de l'électricité, est physicien. Il est l'auteur précisément de l'histoire de l'électricité, de l'ambre à l'électron, paru chez Vuibert. Cette émission a été réalisée par Marie-Noëlle Dumoulin et André Remy. Passez une bonne soirée. À la semaine prochaine.
Retrouvez Semences de Curieux le dimanche de 17h15 à 18h.
La première.